Chers amis, je vous propose de nous pencher sur l'espérance. Et je voudrais prendre comme fil conducteur de notre réflexion la parole de saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5. L'espérance ne déçoit pas. Nous sommes dans des temps difficiles, je dirais objectivement difficiles, compte tenu des risques de guerre, d'effondrement économique, de bouleversements anthropologiques et éthiques, de beaucoup de choses qui peuvent nous faire peur. C'est comme si nous étions mis sous pression pour nous garder en situation de stress, de désespoir larvé, d'abattement psychologique. À écouter les médias, il ne faudrait même plus avoir d'enfants, car nous allons tous périr demain. Si ce n'est pas d'une chose, ce sera d'une autre. Et de fait, il nous faudra bien mourir un jour. Ce n'est donc pas une raison pour vivre dans la peur, l'anxiété et le désespoir le restant de nos jours. D'autant plus, on le sait, que la peur est mauvaise conseillère et qu'au lieu de nous pousser à remédier aux maux et à nous engager pour le bien, elle nous paralyse plutôt. Et puis on sait que le fait de nous maintenir en situation de stress ou de peur est un moyen aisé pour les gouvernements de nous garder dans la docilité. D'où l'importance de vivre dans la paix du Christ et de choisir de cultiver en nous l'espérance. C'est une forme de résistance, non pas armée, mais spirituelle, pour ne pas nous laisser vaincre ni par nos peurs, ni par les puissances politiques, ni par les démons, car la peur peut être une porte d'entrée pour eux aussi, en nous. Ne l'oublions pas. En fait, notre degré d'espérance sera la mesure de notre foi. Plus nous croyons dans le Seigneur, dans sa toute-puissance, dans son amour pour nous, dans sa divine providence qui conduit toutes choses, et moins nous avons peur, et plus notre espérance est forte, car fondée sur une foi forte. Nous ne mettons pas notre espérance en nous-mêmes, mais en lui, notre Dieu, et cela contribue à nous mettre au large intérieurement. « Je sais en qui j'ai mis ma foi, » disait saint Paul, et donc il ne craignait plus rien. Et pourtant, il a traversé une multitude d'épreuves. Il a été battu, flagellé, ostracisé, persécuté, mais rien n'était capable de l'ébranler, car il se savait fils de Dieu. Dans sa lettre aux Romains, il exhorte les fidèles à cette confiance filiale qui nous rend libres. « Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, » dit-il. « Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. » qui nous fait nous écrier « Abba, Père !» Et les conséquences de cette filiation divine, c'est que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, et si nous souffrons avec lui, eh bien nous serons glorifiés avec lui. Et donc la perspective ne peut être que glorieuse. Nous savons où nous allons. Nous sommes attendus par notre Père du ciel. Et si nous sommes enracinés dans cette foi, foi qui n'est pas un vague sentiment mêlé de doutes, mais qui est une certitude de l'intelligence, un assentiment intérieur à la révélation que nous avons reçue de Dieu. Alors nous tiendrons bon dans l'adversité, tendus vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Saint Paul, dans son hymne à l'amour de Dieu, dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, chante cette assurance devant les maux de la vie. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Personne, précisément, puisque le Père a envoyé son Fils bien-aimé pour nous sauver. Alors ce n'est pas maintenant qu'il va nous abandonner. Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus ? Personne, puisque c'est Dieu qui justifie. Et Jésus est à la droite du Père pour intercéder pour nous comme notre avocat. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Demande-t-il encore. La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. « Je puis tout en celui qui me fortifie », dit-il encore dans une autre lettre. Et saint Paul s'exclame pour finir, « J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Cette certitude de l'amour de Dieu, qui est le roc sur lequel se fonde sa foi, est aussi ce qui nourrit son espérance. Dieu ne peut pas nous abandonner maintenant, alors qu'il a envoyé son Fils bien-aimé, non pour juger le monde, mais pour le sauver. Et si nous accueillons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, alors non seulement toutes les peurs ne peuvent que s'évanouir comme neige au soleil, mais nous pouvons tout espérer de notre Père céleste. Et saint Jean de la Croix, dans une de ses lettres, rappelait la grande puissance de l'espérance. « On obtient de Dieu tout autant qu'on en espère, » disait-il. Pourquoi ? Parce qu'espérer beaucoup de Dieu, cela le glorifie. Cela prouve notre foi, notre confiance en lui. Et Dieu est tellement touché qu'on espère beaucoup de lui, qu'il donne beaucoup et plus encore, car il aime être libéral avec ceux qui n'espèrent rien d'eux-mêmes, mais tout de lui. En fait, la grande espérance, celle qui a habité et qui continue d'habiter le cœur du peuple juif et qui habite le cœur des chrétiens, cette grande espérance nous vient de la fidélité de Dieu à ses promesses. Nous savons que Dieu est véridique et que ce qu'il a annoncé depuis l'origine, il est assez puissant pour le réaliser. Et de fait, nous l'avons vu dans l'incarnation de Jésus d'une manière merveilleuse. Mais toute l'histoire d'Israël est une espérance, une attente de la réalisation des promesses de Dieu. Et quand on parle d'espérance, on ne parle pas d'un vague espoir humain. C'est bien différent. Je peux espérer qu'il fasse beau demain. Je peux avoir l'espoir de réussir un examen. Mais ça, c'est un espoir humain, non fondé sur la parole de Dieu, sur ses promesses à lui. L'espérance, elle, est une vertu théologale, comme la foi, comme la charité. C'est une vertu qui est un don de Dieu et qui nous adapte à Dieu, qui est relative à Dieu et non pas aux choses de ce monde. Cette vertu, nous l'avons reçue au baptême. Vous connaissez sans doute ce qu'on appelle l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous tenez toujours vos promesses. Quand vous avez un petit coup de déprime ou de blues dans votre relation à Dieu, n'hésitez pas à proclamer cet acte d'espérance. Ça fait fuir tous les démons de désespoir, de tristesse, de repli sur soi. C'est une flèche empoisonnée pour le démon. Par l'espérance, nous désirons et nous attendons de Dieu avec une ferme confiance la vie éternelle et son aide pour y parvenir, selon sa promesse. Et nous savons qu'il nous l'accordera, car Dieu veut notre salut encore plus que nous le voulons pour nous-mêmes. En fait, l'acte d'espérance s'appuie sur l'acte de foi qui lui-même va avec l'acte de charité. Dans l'acte de foi, nous disons « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Je peux espérer en Dieu parce qu'il est vérité, et étant vérité, il ne peut se tromper ni nous tromper. Et Dieu est aussi amour. Et notre foi et notre espérance s'enracinent dans son amour pour nous. Dans l'acte de charité, nous disons « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, parce que vous êtes infiniment bon. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. » Si Dieu était vérité mais qu'il n'était pas amour, nous pourrions nous défier de lui et ne pas mettre ni notre confiance ni notre espérance en lui. Mais la révélation qu'il nous a faite de lui-même en toute vérité, c'est que fondamentalement, il est amour, il est bonté. Et Jésus lui-même le disait au jeune homme riche, « Dieu seul est bon. » Et c'est parce qu'il est bon et vrai que nous l'aimons et que pour l'amour de lui, nous aimons nos frères qui sont aussi ses enfants bien-aimés. Tout se tient. Et donc celui qui grandit dans la foi ne peut que grandir aussi dans l'espérance et dans la charité. Donc, quand saint Paul nous dit « l'espérance ne déçoit pas » dans sa lettre aux Romains, c'est parce que Dieu nous aime et que Dieu est fidèle à ses promesses, comme saint Paul le rappelle encore dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 10. Et comme il est dit dans l'acte d'espérance, il nous a promis son secours et il tient toujours ses promesses. Quelle sécurité cela donne! Et je fais une parenthèse, mais cela est tellement important au niveau personnel. Nous nous laissons si souvent abattre parce que, au lieu de nous focaliser sur les promesses de Dieu à notre égard, nous permettons à Satan de braquer son projecteur sur nos faiblesses, nos peurs, nos doutes, notre manque d'assurance, notre misère native. Et cela est vraiment un piège pour nous. Comprenez que c'est de l'ordre du combat spirituel. Nous sommes responsables de notre regard. Si nous considérons avec grande espérance les promesses de Dieu et que nous comptons sur sa grâce, alors nous serons dans la paix et dans la joie. Dieu pourra accomplir pour nous ce qu'il nous a annoncé. Mais si détournant le regard de lui, de ses promesses, si nous faisons comme Pierre qui, au lieu de fixer ses yeux sur Jésus qu'il appelle hors de la barque, commence à regarder la bourrasque qui vient, la mer qui s'agite, alors nous ferons aussi comme lui, nous commencerons à couler. « Homme de peu de foi, nous dira Jésus, pourquoi tu doutais ?» C'est justement quand tout va mal qu'il faut jeter l'ancre de notre espérance par-delà le ciel pour l'arrimer à Dieu et ne pas couler dans le gouffre du désespoir. Dans les temps anciens, quand le peuple juif était soumis à tant de difficultés, à l'esclavage en Égypte, à l'exil à Babylone, c'est précisément la foi et l'espérance dans les promesses de Dieu qui lui ont permis de tenir dans les adversités. Le peuple juif a été pendant des millénaires le peuple de l'attente, de l'espérance en l'accomplissement de la venue d'un Messie sauveur qui apporterait le salut et la réconciliation avec Dieu. Il y a un proverbe juif qui dit « Quand tu as espéré et que ton espérance a été vaine, espère encore ». L'espérance se nourrit de la persévérance. Elle a vocation, telle une petite flamme toujours vacillante, à traverser toutes les nuits sans faiblir. Et il en a fallu de la persévérance dans l'espérance pour l'humanité avant de recevoir le Sauveur promis. Dès le commencement, juste après la faute originelle, Dieu dans sa miséricorde a fait une promesse au livre 3 de la Genèse. Livre qu'on appelle le proto-évangile car il annonce déjà le salut. Dieu s'adresse au serpent tentateur et lui dit « Parce que tu as fait cela, maudit sois-tu. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Autrement dit, Dieu annonce une inimitié irréconciliable entre le lignage de la femme, et plus particulièrement un de ses fils, et Satan, représenté par le serpent. L'interprétation messianique découle de ce verset. On la retrouve dans la tradition juive ancienne, puis elle a été reprise par beaucoup de pères de l'Église. Ce lignage de la femme, c'est le fils de la Vierge qui apportera le salut. Tradition qui a été redonnée comme une espérance au peuple hébreu par beaucoup de prophètes. Vers 700 ans avant Jésus-Christ, Dieu, par le ministère du prophète Isaïe, précise les circonstances et l'identité de ce Messie promis. Au chapitre 7, voici ce qui est annoncé. « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge est enceinte et enfantera un fils. » Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est une naissance virginale qui est annoncée. Au chapitre 9, nous avons encore cette annonce de la naissance de ce roi Messie qui viendra sauver son peuple. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules et on lui a donné ce nom. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix, pour que s'étende le pouvoir dans une paix sans fin sur le trône de David et sur son royaume pour l'établir et l'affermir dans le droit et la justice. Et la prophétie se termine ainsi. Dès maintenant et à jamais, l'amour jaloux du Seigneur des armées fera cela. voyez, le Seigneur atteste la véracité de la prophétie. Il pose le sceau à la prophétie en confirmant sa réalisation à venir. Ce fils de la Vierge qui sera l'Emmanuel, Dieu avec nous, est aussi de descendance royale selon la prophétie. Les noms qui lui sont donnés par Dieu montrent que cet enfant qui apportera le salut aura la sagesse de Salomon, la bravoure et la piété de David, les grandes vertus de crainte de Dieu et de connaissance de Dieu, de Moïse et des patriarches. Mais cela n'est pas tout. Au chapitre 11, Isaïe nous dit que ce Messie de race royale sera doté de l'esprit prophétique, comme un nouvel Élie. Un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses racines. Sur lui reposera le Saint-Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il jugera, mais non sur l'apparence. Il se prononcera, mais non sur le « oui dire ». Il jugera les faibles avec justice. Il rendra une sentence équitable pour les humbles du pays. Ce Messie est présenté de plus comme celui qui rétablira la sainteté paradisiaque, la paix et l'harmonie du monde, et qui permettra que le pays soit rempli de la connaissance de Dieu. Isaïe dévoile aussi que le Messie sera le serviteur bien-aimé de Dieu. Au chapitre 42, nous lisons « Voici mon serviteur que je soutiens, dit le Seigneur, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Il présentera aux nations le droit. Les îles attendent son enseignement. » Et s'adressant à cet élu, Dieu lui dit, comme par anticipation prophétique, « Moi, le Seigneur, je t'ai appelé dans la justice. J'ai fait de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. » Les prophéties sont donc très précises, jusqu'à donner le lieu et le temps de l'accomplissement de la venue du Sauveur. Dans le livre de Michée au chapitre 5, Dieu fait connaître à son peuple que le Messie naîtra à Bethléem. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite parmi les clans de Juda, c'est de toi que sort pour moi celui qui doit gouverner Israël. » Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au jour où aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Il fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu, et lui-même sera la paix. Et c'est précisément parce que tout le peuple juif savait que le Messie naîtrait à Bethléem, la ville des rois de Juda, que lorsque les mages sont venus à Jérusalem et qu'ils ont consulté ceux qui connaissaient les Écritures, on leur a dit « c'est à Bethléem qu'il faut aller ». Le lieu avait été annoncé 700 ans auparavant. Et le temps avait été annoncé aussi des siècles auparavant par le prophète Daniel. Celui-ci avait prophétisé un temps de 70 semaines avant la venue du Messie. Or, selon les principes bibliques prophétiques, un jour prophétique correspond à une année. Selon ce principe, les 70 semaines auxquelles la prophétie faisait allusion représentent une période de 490 ans. Les 70 semaines devaient débuter au moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. En 457 avant notre ère, dans la septième année de son règne, le roi Artaxerxès publia un décret permettant à Esdras de retourner à Jérusalem pour achever la construction de la ville. Je vous passe les détails des calculs. Ce qui est à retenir, c'est que la prophétie était tellement précise que le peuple juif attendait son Messie au moment où Jésus a commencé à prêcher. Cela correspondait à ce qui avait été annoncé. Dieu, par toutes ses annonces prophétiques, renouvelait sa promesse, rappelait sa fidélité, son dessein de salut pour son peuple malgré ses fautes. Il préparait les cœurs à la venue dans la chair de son Fils. Il en annonçait le lieu, le temps, il en décrivait l'identité, un descendant de la tribu de Juda, la venue mystérieuse, née d'une vierge, la mission de paix, de justice, de restauration sous le souffle de l'Esprit, sa proximité avec Dieu jusqu'à être assimilé à la sagesse divine, mais pas seulement. Et c'est là qu'il est important d'avoir le cœur ouvert et de ne pas sélectionner seulement ce qui nous plaît dans les annonces de Dieu. Le Messie n'a pas été annoncé seulement comme un descendant royal, mais aussi, et il fallait l'accueillir ainsi, comme le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek, et la victime, l'agneau pascal du sacrifice, le juste qui fait de sa vie un sacrifice expiatoire. Or cela, une partie des Juifs ne l'ont pas compris, tellement ils étaient dans le désir d'un royaume terrestre et non pas surnaturel. Pourtant, la prophétie était claire, et d'ailleurs même la prophétie annonçait leur aveuglement. « Objet de mépris », peut-on lire au chapitre 53 d'Isaïe, « abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n'en faisions pas cas. Or, ce sont nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. » Ça, c'est la prophétie sur l'aveuglement d'une partie d'Israël. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il a été frappé pour le crime de son peuple. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Et par lui, la volonté de Dieu s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Il s'est livré lui-même à la mort et il a été compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Et dans le livre de Zacharie au chapitre 11, verset 12, était aussi prophétisé que le Messie serait trahi et vendu pour 30 pièces d'argent. Et de fait, c'est ce qui s'est passé avec Judas. Mes amis, quelle précision dans la prophétie! Quel portrait saisissant du Christ souffrant la passion! Et Dieu nous a donné cette prophétie 700 ans avant sa réalisation. Le roi David, 1000 ans avant la venue du Christ, mû par l'esprit prophétique, dans ses psaumes, dépeignait aussi le visage du Messie. L'image du bon berger au psaume 23, les souffrances et la victoire sur la mort du juste au psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu a tout dit sur son Fils bien-aimé et même la résurrection. Quand saint Paul écrit « Christ est ressuscité le troisième jour selon les Écritures », de quoi parle-t-il ? Eh bien de la prophétie d'Osée au chapitre 6, versets 1 à 3. Venez, retournons vers le Seigneur, il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre, et le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons en sa présence. C'est au pluriel, car si cela concerne au premier chef le Christ, cela nous concerne aussi, puisque par la foi nous vivons en lui et lui en nous. Sa victoire sur la mort le troisième jour est notre relèvement, notre libération, notre rédemption. Dans le psaume 16, l'annonce de la résurrection est aussi donnée. « Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir à la corruption. » Et saint Paul commente ce verset en disant aux Juifs, « David est mort, donc il ne parlait pas de lui quand il a composé ce psaume. Mais comme il était prophète, il a annoncé que le Christ ne connaîtrait pas la corruption de la mort. » Toutes ces promesses concernant le Messie, les Juifs les ont gardées dans leur cœur pendant des siècles. Elles ont été l'aliment de leur espérance invincible. Et le Messie est venu selon ce qui avait été annoncé. Mais depuis le Christ, la bouche des prophètes ne s'est pas tue. C'est une aberration de dire qu'il ne doit plus y avoir de prophètes depuis la venue de Jésus. Si on regarde dans les actes des apôtres et dans les écrits apostoliques, nous voyons bien qu'à côté du ministère des apôtres, il y a toujours le ministère prophétique qui est là. Dans les actes au chapitre 13, verset 1, on peut lire Il y avait dans l'église établie à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Et dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, c'est dit clairement. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner, etc. Le ministère prophétique a donc encore toute sa place dans l'église. Et d'ailleurs Marie, quand elle apparaît à la Salette, à Akita, à Fatima, elle vient bien pour délivrer un message prophétique, parce qu'elle est la reine des prophètes. Or, qu'annonce-t-elle et qu'annoncent les prophètes reconnus de nos temps? Ils actualisent pour nous les prophéties de Saint Jean dans l'Apocalypse. Ils annoncent des tribulations graves, des guerres, des divisions, mais aussi une ère nouvelle, une nouvelle Pentecôte, le règne du Saint-Esprit dans les cœurs, la terre nouvelle et les cieux nouveaux. Cependant, je me pose la question. Sommes-nous encore capables de croire en ces promesses? Sommes-nous encore capables d'espérer avec la même certitude que les Juifs quand ils attendaient avec ardeur, foi et grande espérance la venue du Messie? Nous devrions être dans la même espérance qu'eux, avec au cœur la même certitude. Mais est-ce qu'on écoute encore les prophètes de nos jours? Est-ce que le rationalisme n'a pas tué dans nos cœurs l'espérance eschatologique? Dans le livre d'Amos, il est dit « Le Seigneur Dieu ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. Or Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Donc si Dieu a été fidèle dans la promesse d'envoyer son Fils pour le salut de tous, eh bien il sera encore fidèle dans ce qu'il continue d'annoncer par la bouche des prophètes pour la fin des temps. Une restauration du monde par sa grâce, la civilisation de l'amour. Alors gardons allumée la flamme de la sainte espérance dans nos cœurs. La vertu d'espérance, qui est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle est un don de Dieu qui nous est fait lors de notre baptême pour nous rendre capables de la vie avec Dieu, eh bien cette vertu est un trésor, un talent précieux, et il nous faut prendre garde de ne pas l'enfouir dans la terre. Ne la laissons pas être rongée par le ver de la désespérance ou de la résignation ou du doute, qui sont des armes fatales du démon pour nous abattre dans notre marche vers la patrie céleste. La Bible est une sorte d'hymne à l'espérance. Elle nous rappelle que nous sommes nés de l'amour de Dieu et que nous retournons à cet amour divin. Et s'il y en a un dans la Bible qui peut être appelé le témoin de l'espérance, c'est bien Abraham, notre père dans la foi, mais aussi dans l'espérance. Et je voudrais que nous nous attardions un peu sur lui car son histoire est un enseignement pour nous. Tout d'abord, Abraham est choisi par Dieu pour être le patriarche d'un peuple que Dieu se réserve, un peuple consacré au Seigneur. Et Dieu dit à Abraham en Genèse 12, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Le chemin de l'espérance commence donc par un appel et un arrachement. Il s'agit de quitter nos attaches humaines, trop humaines, pour entrer dans les voies de Dieu, pour accepter de se laisser conduire par Dieu, non selon nos plans à nous, mais selon son appel. L'espérance n'est donc pas une option de confort, mais plutôt la perspective d'une désinstallation. L'espérance marche avec la confiance. C'est parce qu'Abraham a fait confiance à Dieu qu'il a décidé de commencer à marcher dans l'espérance. Et cette espérance lui est venue de la promesse de Dieu. Car immédiatement après la demande de partir, sans lui indiquer où, Dieu lui dit « Je ferai de toi un grand peuple. Je te bénirai, je magnifierai ton nom. Tu seras une bénédiction. Par toi se béniront tous les clans de la terre. » Voilà donc la première promesse de Dieu qui va mettre en route Abraham. Et c'est très intéressant ce qui nous est dit là. Abraham aurait pu dire « Bah non, en fait, ici j'ai une terre, une patrie, une parenté, je suis bien, pourquoi partirais-je ? En plus, j'ai 75 ans, je préfère rester tranquillement là pour finir mes vieux jours. » Or, il n'a pas réagi ainsi. Il s'est levé et il est parti. Parce que le bien que lui a promis le Seigneur lui est apparu plus désirable à ses yeux. Et ce bien, c'était non pas seulement un bien matériel, mais un bien moral, spirituel. Dieu veut lui donner une grande descendance et il veut faire de lui une bénédiction. Mais pour que cela advienne, il fallait quitter les fausses bénédictions, les biens seulement humains, le pays, la parenté, la maison du Père. Abraham ne tergiverse pas. Car dès le verset suivant, il nous est dit « Abraham partit comme lui avait dit le Seigneur ». Abraham partit donc alors qu'il avait déjà 75 ans. Vous imaginez un peu. Abraham a fait toute sa vie à Haran, au nord-ouest de la Mésopotamie. Et le voilà à 75 ans sur les routes pour un périple dont il ignore le but. Sa boussole, c'est son obéissance à Dieu. C'est sa confiance en Dieu et son espérance en la réalisation des promesses. Quand Abraham arrive en Canaan, voilà que le Seigneur apparaît à nouveau à Abraham et lui dit « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » La promesse de Dieu se complète donc. Parce qu'Abraham a écouté Dieu et l'a suivi, il reçoit une nouvelle promesse, la possession de cette terre de Canaan, la terre promise par Dieu. Plus tard, après qu'Abraham se soit séparé de son neveu Lot, le Seigneur s'adresse à nouveau à Abraham et lui dit « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. » Je voudrais vous rendre attentif à cette expression. Lève les yeux et regarde. Dans la Bible, il y a des expressions comme cela qu'on retrouve telles quelles et qui ont un sens bien particulier. Et précisément, cette expression est toujours liée à la réalité d'un regard prophétique. Ce que Dieu est en train de dire à Abraham, ce n'est pas seulement une invitation charnelle, « ouvre les yeux et regarde », mais c'est une invitation au regard prophétique. « Lève les yeux et regarde », cela veut dire « je te montre ce qui va advenir dans l'avenir. J'ouvre surnaturellement tes yeux pour qu'ils voient ce que je prépare. » Le Seigneur est donc en train de manifester, de révéler surnaturellement à Abraham une réalité spirituelle à venir, une descendance immense, pas seulement charnelle, mais spirituelle, la lignée des croyants, et une terre promise, pas seulement la terre d'Israël, mais la terre des vivants, selon le psaume 116, la terre nouvelle et les cieux nouveaux. Puis ensuite, il y a la campagne des quatre rois, des guerres qui durent pas mal d'années. Après quoi, de nouveau, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Mais Abraham se plaint « Je n'ai point de descendance, c'est un de mes intendants qui va hériter de moi. » Il faut se souvenir que la première promesse de Dieu à Abraham, alors qu'il avait déjà 75 ans, c'était de faire de lui un immense peuple avec une grande descendance. Or, les années passent et Sarah, sa femme, est toujours stérile. Mais Dieu lui dit à propos de cet intendant, « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Puis il le conduit dehors et lui dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Telle sera ta postérité. L'espérance, mes amis, a besoin de persévérance. Il s'agit de durer dans l'espérance, sans se décourager, même si la réalisation de la promesse n'advient pas aussi vite qu'on le voudrait. Dans le verset suivant, il est dit « Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. » Abraham aurait pu désespérer depuis le temps, et pourtant il ne désespère pas. L'épreuve de la durée fait partie de la purification de l'espérance, qui, comme toutes les vertus, a besoin d'être purifiée de nos manières trop humaines de voir les choses. Et Dieu voit qu'Abraham continue de lui faire confiance et il lui reconnaît le mérite de cette confiance en une promesse humainement irréalisable. La foi et l'espérance d'Abraham font de lui un juste aux yeux de Dieu. Mais Abraham demande quand même au Seigneur, après que celui-ci lui a encore promis ce pays de Canaan, « Mon Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je le posséderai ?» Et nous avons là l'épisode de l'Alliance où Dieu demande à Abraham d'aller prendre des animaux, de les partager et de placer chaque moitié vis-à-vis de l'autre, puisque l'Alliance se conclut toujours par un sacrifice. Or, que nous est-il dit ? Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. L'Alliance est un partage de responsabilité. Or là, nous voyons que Dieu seul, sous le symbole du feu, va passer au milieu des animaux partagés. Ce qui montre bien que Dieu prête serment par lui-même et lui seul s'engage. Son alliance est un pacte unilatéral. Mais cela ne veut pas dire que l'homme n'ait rien à faire. Abraham a chassé les rapaces qui voulaient s'abattre sur les cadavres, c'est-à-dire la matière de l'alliance. L'alliance est certes un don de Dieu, mais l'homme doit veiller à protéger ce don, l'alliance. Autrement dit, il doit veiller à éloigner tout ce qui pourrait mordre sur son intégrité, tout ce qui pourrait la mettre en doute. Nous savons bien la puissance des démons au niveau de nos pensées pour nous amener à douter, à désespérer des promesses de Dieu, ou même à les oublier par lassitude. Notre combat spirituel, c'est le combat de la foi, de la confiance en Dieu, en ses promesses. C'est le combat de l'espérance, alors même qu'il n'y a plus d'espoir humainement parlant. Il nous faut toujours chasser les vautours qui menacent notre foi et notre espérance en Dieu. Et il y a une tentation aussi qui peut tous nous rejoindre. C'est de vouloir accomplir les promesses de Dieu par nos propres forces, au lieu d'en recevoir la réalisation par les moyens de Dieu. Et on pourrait dire que sur ce coup-là, Abraham a cédé à la tentation, à cause de sa femme. Sarai, en effet, voyant qu'elle n'avait pas donné d'enfant à Abraham, l'invite à aller vers Agar, sa servante, pour pouvoir avoir des enfants qu'elle reconnaîtrait comme les siens, selon le droit mésopotamien en vigueur à cette époque. Et Abraham écoute la voix de Sarai. Un enfant naît, Ismaël. Abraham a 86 ans quand l'enfant naît. Plus tard, alors qu'Abraham a 99 ans, de nouveau Dieu lui apparaît et lui reconfirme la promesse. « Voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Car je te fais père d'une multitude de nations. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. À toi et à ta race après toi, je donnerai le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan. Et Dieu demande comme signe de cette alliance de génération en génération la circoncision dans la chair. Et puis Dieu annonce « Ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. » Et il nous est dit « Abraham tomba la face contre terre et il se mit à rire, car il se disait en lui-même « Un fils naîtra-t-il à un homme de 100 ans et Sarah qui a 90 ans va-t-elle enfanter ?» Vous imaginez un peu. Dieu a fait sortir Abraham de Mésopotamie alors qu'il avait 75 ans. Pendant 25 ans, il lui a dit « Je te donnerai une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Et là, maintenant, alors qu'il a 100 ans et que Sarah, sa femme, en a 90, qu'elle a passé depuis longtemps le temps d'avoir des enfants, Dieu annonce un fils. C'est tellement inouï qu'Abraham ne peut que rire, comme Sarah rira aussi quand les trois hommes qui les visiteront à Mambré annonceront la même chose. Abraham, tellement interloqué, dit à Dieu « Oh, qu'Ismaël, c'est-à-dire l'enfant né d'Agar, vive devant ta face !» Mais Dieu reprend « Non, non, ta femme, Sarah, te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac. Et c'est avec lui que j'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle. » Voyez comme Dieu a mis à l'épreuve l'espérance d'Abraham durant 25 ans. Et nous, nous nous lamentons quand les promesses de Dieu sur nos vies ne se réalisent pas dans le mois qui suit ou quand la parousie, le retour en gloire du Seigneur n'est pas encore arrivé. Et nous désespérons. Souvenons-nous d'Abraham et de sa persévérance dans la foi et l'espérance. Cela n'a pas été facile pour lui. On le voit bien. Et pourquoi ? Parce que les promesses de Dieu, si elles sont vraiment de Dieu, sont des promesses folles. Des promesses impossibles à réaliser humainement parlant. Et donc nous achoppons parce que nous mettons des barrières à la toute-puissance de Dieu. Nous n'osons pas croire jusque-là, jusqu'à la hauteur de la promesse. Nous limitons Dieu, nous limitons sa puissance au niveau de nos pensées. Et cela montre bien que nous avons à être purifiés de notre rationalisme. Et le Seigneur veut, à travers l'attente, non pas nous désespérer, mais creuser en nous une foi plus profonde, une soif, un désir, une espérance non pas naturelle, mais surnaturelle. Il veut par là nous hisser à la hauteur de son dessein bienveillant, à la hauteur inimaginable de ce qu'il veut et peut réaliser. Quand les trois hommes, images de la Trinité, viennent visiter Abraham et Sarah au chêne de Mambré, et qu'ils entendent le rire de Sarah devant l'annonce miraculeuse de l'enfant, que disent-ils ? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour le Seigneur ? Autrement dit, Dieu est Dieu. Rien ne lui est impossible. Dans sa lettre aux Éphésiens, saint Paul rappelait cette vérité qui devrait nous habiter continuellement. « À celui, dit-il, dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. À lui la gloire. » Mes amis, ne limitons pas les promesses de Dieu à ce que nous pouvons en comprendre, que ce soit au niveau de notre vie personnelle ou que ce soit au niveau du monde. Dieu, dans sa parole, a fait des promesses à l'humanité. Il nous a assuré que le mal serait vaincu par le souffle de sa bouche, que viendrait un temps de restauration de toutes choses en Christ. Il nous a dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, que Dieu sera tout en tous, que le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et même si aujourd'hui nous nous éloignons apparemment de plus en plus de la réalisation de ces promesses, n'ayons aucun doute. Notre espérance ne sera pas déçue et Dieu fera des choses bien plus grandes encore dont nous n'avons même pas idée. C'est honorer Dieu que de croire que rien ne lui est impossible. Notre espérance lui rend hommage, le glorifie. Et soyez conscients que plus la promesse est grande, plus l'épreuve sera grande pour purifier notre espérance. Abraham a attendu 25 ans la réalisation de la promesse d'une postérité. Elle s'est réalisée précisément quand plus aucune alternative humaine n'était envisageable. À ce moment-là, ce n'était plus une espérance humaine, mais théologale, rapportée à Dieu seul, qui seul pouvait l'accomplir. Mais la purification n'était pas encore terminée. L'espérance a dû passer par le feu avant de se déployer en plénitude. Et ce feu, ce fut l'ultime épreuve. La demande par Dieu du sacrifice d'Isaac, du sacrifice du fils de la promesse, précisément. Est-ce qu'on peut imaginer une épreuve plus grande ? Là, c'est comme sauter dans le vide, avec pour seul filet de sécurité la foi en l'amour de Dieu et l'espérance folle en ses promesses. Au chapitre 22 de la Genèse, nous lisons « Dieu dit à Abraham, « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Moi, je suis impressionnée par la docilité intérieure d'Abraham. Toute sa vie, il a été prompt à écouter la voix de Dieu et à suivre aveuglément tout ce que le Seigneur lui disait de faire. Même quand celui-ci lui demandait le sacrifice de la prunelle de ses yeux, le sacrifice du fils de la promesse. Vous imaginez un peu l'aporie de l'intelligence face à un tel ordre. Il y a là une contradiction insoluble, insurmontable. Dieu a promis une descendance immense par ce fils Isaac. Or, avant que celui-ci ait eu des enfants, il faut l'offrir en sacrifice. Mais alors, comment se réalisera la promesse ? Ce débat intérieur a dû se transformer en une sorte d'agonie intérieure dans le cœur d'Abraham. Et pourtant, cela ne l'a pas arrêté. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts, commente l'auteur de la lettre aux Hébreux à propos d'Abraham. C'est tellement important cela. Voyez, Dieu nous a donné une intelligence. Il a fait de nous des êtres de raison, mais non pas pour que nous mettions notre raison au-dessus de sa parole. Non pas pour que nous jugions des paroles de Dieu et de la pertinence de notre obéissance à l'aune de notre raison. Notre boussole ne doit pas être d'abord notre raison, sinon nous en faisons une sorte d'idole. Mais notre boussole doit être la parole de Dieu et notre promptitude à lui obéir dans un esprit de foi et d'amour. Et c'est précisément ce qu'a fait Abraham, puisque tout de suite après il est dit « Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac ». Il fendit le bois de l'Holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Or, que nous est-il dit ensuite ? Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Étant donné ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, je pense que ça vous a fait tilt. Nous avons encore là la même expression. Il leva les yeux et il vit. Nous sommes donc dans une vision prophétique. De même que Dieu avait prophétiquement révélé en la personne d'Isaac une figure du Messie à venir, d'où sa joie et son rire, Jésus d'ailleurs dans l'évangile de saint Jean l'atteste. « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. » De même ici, Dieu lui révèle une autre facette du mystère du Messie à venir dans le sacrifice d'Isaac. Le troisième jour. Cela nous dit quelque chose à nous, chrétiens, les trois jours de la Passion, mort et résurrection du Christ. Le troisième jour, donc, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Il faut savoir que les collines de Jérusalem sont au pays de Moria, précisément là où Abraham monte pour sacrifier son fils. Nous n'avons pas la certitude absolue, mais selon de nombreux spécialistes, il est très probable que Jésus ait pu être crucifié au sommet du mont Moria, comme Isaac a été lié au sommet du mont Moria. Et donc Dieu aurait révélé à Abraham le mystère du Christ offert en holocauste dans la personne de son fils Isaac. Et cela, Abraham l'a vu de loin, c'est-à-dire prophétiquement. Abraham entre donc dans un mystère de préfiguration, où un père, le Père du ciel, offre en sacrifice son fils, Jésus. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac, tout comme le Christ se chargera plus tard du bois de la croix sur lequel sera consommée l'offrande parfaite. Lui-même, Abraham prit en main le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Précieuse précision qui nous dit l'accord de volonté à venir entre le Père céleste et son Fils Jésus dans le sacrifice offert. Ils vont tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père et lui dit « Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique, comme le Père ne nous refusera pas son Fils, Jésus. Abraham leva les yeux et vit celui qui serait mis à mort en réalité, l'agneau du sacrifice à venir, le Christ. C'était donc là l'ultime épreuve, l'ultime purification de l'espérance d'Abraham. Par cette épreuve, Dieu a donné l'occasion à Abraham de manifester l'attitude profonde de son cœur. Non seulement Abraham a espéré contre toute espérance, non seulement il a obéi dans un assentiment complet de sa volonté à la volonté de Dieu, mais par ce fait même, il a montré que pour lui, le lien avec Dieu était supérieur à tout lien charnel, et que le Dieu de la promesse était pour lui plus important que la promesse de Dieu. Et donc il était prêt à sacrifier sur l'autel de son cœur la promesse, le Fils de la promesse, plutôt que de sacrifier Dieu lui-même. C'est l'adoration due à Dieu par-delà les affections charnelles dont a fait preuve Abraham. Jésus ne dira-t-il pas au chapitre 14 de Saint Luc « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Après cette ultime épreuve, Dieu confirme la promesse faite à Abraham. « Je jure par moi-même, parole du Seigneur, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » L'épreuve était terminée. Dieu allait pouvoir faire d'Abraham une bénédiction pour de nombreux peuples. Cette épreuve douloureuse a servi non seulement à purifier, mais aussi à élever l'espérance d'Abraham à la hauteur des biens inimaginables que Dieu voulait lui accorder, biens non pas seulement matériels, mais prophétiquement eschatologiques. Il lui donnait de voir les biens surnaturels à venir, pas seulement son Fils, mais le Messie Sauveur, pas seulement une terre promise, mais la terre renouvelée, la terre nouvelle et les cieux nouveaux, pas seulement une cité terrestre, mais la Jérusalem nouvelle et céleste. L'auteur de la lettre aux Hébreux évoque Abraham et ses descendants. « Ils sont morts, dit-il, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé, en effet, une ville. » Et cette ville, mes amis, ce n'est pas la Jérusalem terrestre, mais la Jérusalem céleste. C'est elle qui est promise à tous les enfants d'Abraham, c'est-à-dire les croyants. Que notre espérance se hisse à cette hauteur, car cette espérance-là ne sera pas déçue. Dieu l'honorera pour sa gloire et pour notre joie.